Suite du feuilleton du 13-14 au Conservatoire de Marseille cette semaine avec Raphaël Imbert, saxophoniste, compositeur qui dirige depuis près de 3 ans l'établissement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, celui qui est aussi chercheur nous amène un peu plus loin que la Canebière, aux États-Unis, en Louisiane. Raphaël Imbert y est parti il y a une dizaine d'années sur les traces des pionniers du jazz à la Nouvelle-Orléans. Il raconte à Sarah Guibaudeau.
J'ai une vocation d'historien ratée dans tout ça. C'est comme si je m'intéressais à l'histoire du catholicisme et que j'allais jamais au Vatican. J'avais besoin d'aller voir sur place. J'ai obtenu la visa Médicis sur les murs pour passer 6 mois à New York. C'était 2003. Et ça a été une expérience totalement traumatisante. Mais vraiment profondément traumatisante. Parce qu'il y avait une telle dichotomie entre ce que je trouvais dans les bibliothèques sur l'histoire, l'âge d'or de cette musique, et le formalisme académique qui était devenu le jazz dans cette ville-là. J'en étais désespéré. Et c'est là où, en réintégrant le HESS, donc l'école des hautes études en sciences sociales, en essayant d'avoir une démarche qui était liée plus à de l'anthropologie, c'est-à-dire que c'est quoi la notion d'être improvisateur quand on est jazzman et tout ça, et comment elle se traduit aux États-Unis, à l'endroit où c'est né. Et là, j'ai été missionné dans le cadre, alors ça c'est 2011, pour aller dans le sud des États-Unis. L'idée de recherche aux États-Unis, c'est lié à l'histoire de la spiritualité. C'est pourquoi des musiciens qui sont liés à une histoire très profane, l'histoire de la Nouvelle-Orléans, le jazz né dans les bordels, on entend toujours beaucoup ça, les mêmes musiciens revendiquent très souvent un imaginaire spirituel assez fort, des convictions politiques assez déterminées, et je trouvais qu'il manquait des éléments. À Tulane, à la Nouvelle-Orléans, il y a toutes ces archives qui même vont jusqu'au 19e siècle, où vous voyez l'importance des églises, des sociétés initiatiques, des loges maçonniques, et c'est un peu des oubliés. Là, par exemple, je leur parle d'un aspect que j'avais découvert dans ces recherches-là, qui est l'histoire de la maçonnerie noire américaine. Et ça, on n'en parle pas dans les histoires. Moi, ça me paraissait intéressant. C'est comme si on n'en parlait pas pour Mozart, pourquoi on n'en parlerait pas pour Duke Ellington? Donc je découvre ça, j'en parle à Tulane, dans ces jazz archives, et ils me sortent des boîtes entières de défilés maçonniques avec des orchestres de jazz qui datent des années 10, des années 20 et tout ça. Et en fait, ils m'ont dit, mais c'est la première fois qu'on nous pose la question. En fait, les documents, on les a. On sort un petit peu l'image d'Épinal, du jazzman, justement, pas éduqué, qui connaît pas la musique classique, ce qui est totalement faux. La plupart ont des professeurs de musique classique et tout ça. J'ouvris une boîte de Pandore extraordinaire en faisant ça, et c'est là que je trouvais les documents qui me permettaient de montrer cette histoire. Le résumé, c'est que les musiciens de jazz sont des militants, autant des militants politiques de la cause, notamment de l'émancipation. Ils se sont éduqués à ce militantisme dans le cadre de leur éducation religieuse et mystique, qu'on retrouve à l'église, dans les églises baptistes, pentecôtistes, méthodistes, et aussi dans le cadre des sociétés qui fleurissent dans tous les quartiers noirs américains au 19e et au 20e siècle. En fait, c'est les universités populaires. Pour une population à qui on refuse l'accès à l'enseignement, au savoir et tout, on constitue un enseignement parallèle grâce à autant de sociétés dans lequel les jazzmen sont très actifs. Finalement, moi, j'ai fait ce voyage-là pour recueillir des documents. Il y en a beaucoup qui l'ont fait pour y rester. Actuellement, à New York, par exemple, il y a toute une communauté de musiciens français qui sont très actifs sur la scène jazzistique à New York. Pareil à la Nouvelle-Orléans, et en fait, un peu pareil sur tous les États-Unis. La Nouvelle-Orléans est une ville d'inspiration absolument incroyable. Vous avez toutes les musiques qui sont présentes. C'est la ville au monde où il y a le plus de musiciens professionnels au nombre d'habitants. C'est une source d'inspiration incroyable, même s'il y a une difficulté de vivre son art là-bas qui est absolument colossale. Il y a une phrase quand même qui est souvent dite là-bas, c'est « Aux États-Unis, on aime la musique, mais on n'aime pas les musiciens ». Et les musiciens américains qui, eux, venaient s'installer en France, ils vivaient le contraire. La France, c'est l'endroit où le musicien est respecté. C'est le deuxième pays du jazz. On a accueilli énormément de musiciens, notamment des musiciens nord-américains, qui vivaient ici un respect de l'artiste qu'ils ne pouvaient pas avoir aux États-Unis.
Le feuilleton du 13-14 avec Sarah Guibaudeau au Conservatoire de Marseille avec Raphaël Imbert cette semaine, réalisation Lucie Le Marchand.